suite du bras de fer entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan, alors que la Turquie et la Grèce se disputent toujours le droit d'exploiter des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée. Recep Tayyip Erdogan qui dit à Emmanuel Macron de ne pas lui chercher querelle. Qu'est-ce qu'on répond dans l'exécutif ?
Écoutez, on laisse l'agressivité au président turc et nous, on souhaite absolument le dialogue et d'avoir des résultats.
Le sabre et le turban, c'est le titre du nouvel essai de Jean-François Colosimo qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Un livre qui vient de paraître aux éditions du Cerf, sous-titré « Jusqu'où ira la Turquie ?» Et c'est vrai que ce pays inquiète avec son président, son 12e président de la République, Recep Tayyip Erdogan, dont vous détaillez la stratégie d'intimidation à base de provocation.
Absolument. Vous voyez bien que, profitant en quelque sorte du chaos géopolitique qu'a occasionné la pandémie, à M. Erdogan, qui est présent en Syrie, qui est présent en Irak, qui est présent en Libye, a troublé cette année la mer Égée et est intervenu auprès de l'Azerbaïdjan pour liquider le Haut-Karabakh arménien. Qui plus est, il est aussi présent au Liban, il est aussi présent dans les Balkans, au Kosovo. Donc on voit bien qu'il y a là une forme d'expansionnisme qui est très très fort et qui est effectivement menaçant, qui plus est, cet expansionnisme bute vraiment frontalement contre les intérêts de la France très souvent.
Ouais, et puis, vous l'avez dit, hein, encore plus avec ce contexte actuel de désordre mondial lié au Covid, parce que c'est un président qui aime montrer les muscles.
Absolument, mais encore une fois, pourquoi ? C'est ça la question qui compte. Ce qui compte, il faut bien comprendre, c'est que la Turquie, née des décombres de l'Empire ottoman, l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu. Cette nation va vivre, en fait, d'une manière survivaliste à son apparition. La Turquie ne va cesser de désigner les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. D'un côté, il va y avoir une fantastique machine à broyer les différences dont souffrent encore aujourd'hui les Kurdes, qui sont des musulmans, mais qui ne sont pas ethniquement turcs, les Alevis, qui sont des musulmans, mais qui ne sont pas sunnites, parce que on a là une machine nationaliste, une fabrique identitaire, qui en fait entend remplacer les populations réelles par un peuple imaginaire. Donc on est dans une forme d'hypernationalisme. Et puis de l'autre, évidemment, on oppose sans arrêt Atatürk, Mustafa Kemal, le fondateur de la République, ce général moderniste, européiste, laïciste, à Erdogan, ouais, l'islamiste, le réactionnaire. Mais l'enjeu de mon livre, c'est de montrer que cette opposition ne tient pas, ouais, parce que Atatürk lui-même, il s'était emparé de ce qu'on appelle le Sanjak d'Alexandrette, on se croirait chez Tintin, n'est-ce pas ? En fait, c'est le coup de la Méditerranée qui représente le littoral syrien, en face de Chypre. Les généraux turcs, ses successeurs, se sont emparés du nord de Chypre en 1974. Atatürk lui-même rêvait, n'est-ce pas, de s'emparer d'Alep, de Mossoul, ces villes auprès desquelles stationnent aujourd'hui les troupes turques d'Erdogan. Lui-même était très préoccupé par l'Asie centrale, où il y a des grandes nations turcophones, par les Balkans, d'où lui-même Atatürk était issu. Donc on voit que en fait, la Turquie nous pose ce problème qui est assez simple, c'est comment au cours du XXe siècle, des empires ont donné lieu à des nations qui se rêvent à nouveau empires. C'est vrai de la Turquie, c'est aussi vrai de la Russie et de la Chine. Comment est-ce qu'on passe en fait d'une société traditionnelle régie par la religion à une sécularisation accélérée, une laïcisation accélérée, ça a été le cas de la Turquie, et on va revenir d'un coup le religieux, n'est-ce pas ? Et puis surtout, comment est-ce qu'on passe de la fascination pour l'Occident au rejet de l'occidentalisation. Mais la Turquie, c'est le pays laboratoire de tout ça par excellence, parce que la Turquie est un Orient Occident qui plus est à 3 heures de Paris, et cette fabrique identitaire constitue aussi aujourd'hui, en fait, un laboratoire belliciste.
C'est ça aussi l'originalité de votre analyse, c'est que vous faites le parallèle donc avec le premier président de la Turquie, hein, Mustafa Kemal, dit Atatürk. Vous l'avez décrit comme son opposé, puisqu'il incarne le progrès, la réforme, l'ouverture vers l'Occident. Et en fait, non, c'est deux visages de la même Turquie, dites-vous. C'est le même processus, le moteur est le même, c'est le carburant qui a changé.
C'est le carburant, effectivement, qui a changé. Mais regardez bien, Mustafa Kemal, qui est certainement un grand homme, c'est pas la question, mais il est plus le contemporain de Lénine et de Mussolini que de Daladier ou de Wilson, n'est-ce pas ? C'était véritablement un démiurge politique. en quelques années, il fait basculer un pays oriental dans une forme complètement occidentale. Il change tout, l'habillement, le calendrier, l'éducation, la langue, etc. Il nationalise l'islam.
Oui, c'est ça. Quand on dit la laïcité sous Atatürk, en fait, vous relativisez cette laïcité. Vous dites c'est l'islam qui est intégré complètement dans l'État. Il n'y a plus qu'une seule religion.
Vous avez parfaitement raison, puisque une des grandes créations d'Atatürk, c'est la Diyanet, le département des affaires religieuses, qui est un État dans l'État, qui recoupe beaucoup de missions de ministères régaliens, n'est-ce pas, comme l'intérieur, les affaires étrangères, enfin, etc. Aujourd'hui, la Diyanet, c'est un département d'État qui emploie 120 000 fonctionnaires et a un budget qui varie entre 2 et 3 milliards d'euros, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment tentaculaire. Eh bien, voyez bien que là où, en fait, Atatürk a nationalisé l'islam, puisqu'il veut faire, en fait, un homme nouveau, un Turc sunnite, capable de prendre la revanche sur la défaite de l'Empire, qui sera ethniquement pur, confessionnellement pur, lui, Erdogan vient derrière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il islamise la nation. C'est pas la Turquie qui a changé, c'est le monde qui a changé autour d'elle, et les grands référents, en fait, idéologiques. Kemal a professé un ultra-progressisme très volontariste, hein, encore une fois, un pays qui naît des décombres d'un empire et qui change du tout au tout en quelques années. Et Erdogan, lui, il professe le fondamentalisme, qui est aujourd'hui le moteur de l'histoire. Ouais. Tous les deux sont des autocrates, tous les deux sont des opportunistes, et tous les deux, en fait, procèdent, je dirais, face à la réalité turque de la même façon, par des cycles de répression, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, où nous avons tous ces merveilleux artistes, intellectuels, écrivains turcs, qui sont soit en prison, soit en exil.